C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, le monde se fissure et le statu quo n'est plus tenable. C'est avec ces mots que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a ouvert la deuxième édition du Forum de Paris pour la paix qui s'est déroulé cette semaine à la Grande Halle de la Villette dans l'Est de Paris. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, dont une douzaine d'Africains, ont fait le déplacement et c'est là que nous avons installé notre studio. Nous allons voir dans un instant les objectifs de ce forum avec Pascal Lamy, son président, puis nous serons en compagnie des membres d'un des projets phares mis en avant par ce forum, le AUEU Youth Cooperation Hub. Alors, je pense que la direction de RFI va hurler en m'entendant parler comme ça, donc je vais faire un petit effort de traduction pour notre radio francophone. En français, ça donne le pôle de coopération jeunesse de l'Union africaine, Union européenne. Bref, c'est un lieu où les jeunes Africains et les jeunes Européens pensent et agissent ensemble, notamment sur les questions d'environnement.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Il y a tout juste une heure avant cette émission, nous avons rencontré l'économiste Pascal Lamy. C'est lui qui préside le comité exécutif du Forum de Paris pour la paix. Bonjour Pascal Lamy.
Bonjour.
Vous êtes le président du comité exécutif du Forum de Paris pour la paix, dont c'est la deuxième édition cette année. Quel est l'objectif de ce forum qui réunit les États, des ONG, des acteurs de la société civile, des entreprises ?
L'idée de ce forum, qui est né l'année dernière, parle d'un constat qui est que les relations internationales du monde d'aujourd'hui ne vont pas bien. Elles sont basées pour l'essentiel sur des relations entre États, avec des traités, des institutions, des organisations. Et tout ce monde-là n'arrive plus vraiment à se mettre d'accord. On le voit d'ailleurs dans l'état du monde d'aujourd'hui qui n'est pas bon. Donc nous partons de ce constat qui, je crois, est partagé par beaucoup de monde. Et notre intention n'est pas de remplacer ce système, on ne va pas remplacer 200 États-nations souverains, on ne va pas remplacer les Nations Unies, on ne va pas remplacer l'OTAN, on ne va pas remplacer l'ASEAN. On veut garder l'idée que plus ce monde s'intègre, plus on doit être capable de gérer ensemble des problèmes globaux de nature environnementale, économique, sanitaire, idéologique parfois, comme la propriété des données, que les États-nations souverains n'y arrivent pas bien, et donc il faut non pas les remplacer, mais les complémenter. Et donc, il faut impliquer dans ces questions de gouvernance globale des acteurs qui ne sont pas les acteurs traditionnels, qui sont des villes, le C40, les 40 grandes villes de ce monde sont devenues très puissantes sur les questions d'environnement. La société civile, des entreprises qui ont envie, par exemple, pour un certain nombre d'entre elles, de grandes multinationales, de mieux mesurer leur parcours vers les objectifs du développement durable, des institutions académiques. Parce que dans beaucoup d'institutions académiques de ce monde, y compris en Asie ou en Amérique, les jeunes d'aujourd'hui veulent bien apprendre, mais ils considèrent qu'ils ne sont pas juste là pour apprendre, ils voudraient bien faire aussi. Et donc, le principe, c'est des projets. Donc on lance une grande pêche aux projets au printemps de toutes les années. On en ramasse 1000 dans le monde. Là-dessus, on les analyse, on en sélectionne une centaine. Qui sont ceux qui, pendant les 2 jours du Forum de Paris pour la paix à la Villette, sont démontrés, débattus, exposés, comme on le voit dans ce gigantesque hall. On en sélectionne 10, et ces 10-là, l'année qui suit, on leur donne un soutien spécifique, médias, argent de temps en temps, soutien politique, donc d'autres acteurs et des solutions, et pas juste des États-nations souverains et des grands principes.
Quelle est la part des discussions sur les enjeux environnementaux dans ce forum ?
Nous avons 5 grands clusters, comme on dit dans la langue de Shakespeare, 5 grands compartiments, et depuis l'année dernière, les questions environnementales, de changement climatique, de biodiversité sont un à part entière, avec la technologie, avec le développement, avec la croissance inclusive et avec la culture.
Donc vous faites cohabiter croissance et environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats pour dire que le PIB n'est pas un bon indicateur, que la croissance est peut-être l'ennemi de l'écologie. Vous qui avez dirigé l'OMC de 2005 à 2013, comment est-ce que vous appréhendez ces débats et comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'une conciliation est encore possible ?
D'abord, j'y participe parce que ce sont de bons débats. Je crois que sur le fait que le PIB ne représente pas correctement la mesure d'une économie de bien-être, tout le monde est d'accord, simplement personne n'a jamais été d'accord pour le remplacer.
L'économiste Éloi Laurent, que nous avions dans notre émission la semaine dernière, disait qu'en fait il fallait de multiples indicateurs.
Probablement, mais en tout cas il n'y a pas pour l'instant d'alternative, hélas, à cette mesure simple et pratiquée par tout le monde. Bon. Est-ce que la croissance et l'environnement sont compatibles ? Tout dépend de la croissance. Il y a des modes de croissance comme celui que nous avons pour l'instant qui ne sont pas compatibles avec la préservation de l'environnement. On le voit sur le changement climatique, on le voit sur la biodiversité. J'ai tendance à penser que le problème, ce n'est pas la croissance. La croissance, c'est le doigt. Il faut regarder la Lune. La Lune, c'est le capitalisme de marché et le mode de production dans lequel nous sommes. Il y a moyen d'aboutir, en tout cas sur le plan théorique, à des modes de croissance inclusifs et soutenables du point de vue environnemental. Simplement, ça suppose énormément de réformes, comme par exemple une formidable transition énergétique dont nous savons qu'elle est coûteuse et en argent et en changement d'habitude pour beaucoup de gens. Je pense que c'est inévitable. Je pense que l'échange international, qui dans certains cas contribue à la croissance, notamment parce qu'il permet la diffusion de technologies plus propres, dans d'autres cas, si le carbone n'est pas correctement pricé, contribue à des émissions de carbone. Là-dessus, j'ai une réponse typique d'économiste. Ça dépend, mais il y a des hypothèses, comme par exemple un prix du carbone à 150 euros la tonne, qui feront, si on en venait là, que le capitalisme de marché s'adapterait et donc deviendrait environnementalement plus soutenable.
Vous êtes membre du bureau de la fondation Mo Ibrahim qui vient de publier un rapport qui montre que l'Afrique est le continent le moins bien informé en termes de données statistiques. Les chiffres sont extrêmement impressionnants. Par exemple, seulement 8 pays ont un système d'enregistrement des naissances fiable. Seulement 3 ont un système d'enregistrement des décès fiable. Comment est-ce qu'on peut piloter des pays si on n'a pas les bons les bonnes données ?
Bonne question, c'est exactement celle que pose la Fondation Mo Ibrahim, qui travaille pour l'amélioration de la bonne gouvernance en Afrique, en gros. La lutte contre la corruption, la transparence, les libertés publiques, le droit des affaires. Nous avons mis le doigt cette année sur cet énorme trou, qui est un trou de connaissances statistiques, un espèce d'énorme trou noir. Je pense personnellement, et j'espère d'ailleurs qu'un jour, un projet de ce type viendra au Forum de Paris sur la paix. Et je pense que nous ne pouvons plus laisser ces questions statistiques dans la main d'autorités politiques souveraines. Elles ont trop tendance soit à ne pas investir, soit à les manipuler. Et moi, si c'était moi, on ferait avec la statistique ce qu'on a fait avec les banques centrales. On donnerait ça à des autorités indépendantes qui sont financées au plan international, et c'est ce qu'il faudrait en Afrique, et qui sont à l'abri des pressions politiques. Un certain nombre de gouvernements africains n'ont pas les appareils statistiques, soit qu'ils ne veulent pas, soit qu'ils ne peuvent pas. Dans les deux cas, les solutions ne passent pas par des choses traditionnelles. Il faut faire des sauts en avant, et si un jour on faisait un office statistique africain pour tous les Africains, sous houlette internationale, je pense qu'on aurait fait un grand pas en avant.
En attendant que la gouvernance s'améliore, la jeunesse africaine se mobilise avec la jeunesse européenne. On le voit ici au Forum de Paris, c'est le hub donc des jeunes Africains et des jeunes Européens dont on va parler dans la suite de cette émission. C'est un projet phare ici ?
C'est devenu un projet phare parce qu'ils étaient dans les 1000 du printemps dernier, ils étaient dans les 100 du Forum de l'année dernière. Ils ont été dans les 10 qui ont été retenus et donc cette année, ils vont bien. C'est un des projets qu'on a retenu l'année dernière, qu'on a aidé, à qui ça a donné de l'agnac, de l'engagement. Il y a une énergie là-dedans que je ne constate pas toujours dans les milieux diplomatiques pour rester très très poli. Et donc c'est un des exemples où, je crois, le Forum de Paris sur la paix arrive à faire bouger les choses autrement que par des méthodes traditionnelles. Si on en a 10 comme ça par an, on sera très, très, très content et le monde ira un peu moins mal.
Jean Constantinesco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Union africaine. Pascal Lamy vient de nous dire le plus grand bien de ce hub que vous avez fondé. C'est vous qui
Merci.
Avez eu cette idée. Alors, expliquez-nous quel est le principe donc, de ce hub qui rassemble quand même 42 jeunes africains et européens.
Merci. Le principe, c'est vraiment d'essayer de proposer une autre manière d'inclusion de la jeunesse. C'est-à-dire souvent, les initiatives d'inclusion de la jeunesse s'arrêtent à des conférences et à des déclarations. Et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'avoir non seulement des jeunes qui pensent ensemble, mais également, comme vous l'avez dit, qui agissent ensemble. Donc concrètement, comment ça marche ? Eh bien, on a passé un appel à candidature ouvert pour recruter 42 jeunes qui sont chacun experts d'un des 6 sujets sur lesquels se penche le AU-EU Youth Hub ou le pôle de coopération jeunesse.
Merci pour
l'effort. Rester dans la francophonie. Et donc, ces jeunes-là, eh bien, ils travaillent sur ces sujets sur la base d'une autre initiative précédente qui a été lancée au précédent sommet de l'Union européenne, Union africaine, qui a eu lieu à Abidjan en 2017. Ils ont pris ces idées, ils les ont tournées en projet. Et ensuite, ils ont participé à la sélection des organisations de la société civile qui vont mettre en œuvre ces projets. Donc,
alors, vous parliez de 6 domaines rapidement.
Alors, 6 domaines très rapidement, c'est éducation et connaissance, business, création d'emplois, entrepreneuriat, environnement et changement climatique, gouvernance et inclusion politique, paix et sécurité et culture, art et sport. Donc, c'est des domaines clés pour le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Ce partenariat si énorme sur lequel il se passe tellement de choses que finalement, personne n'y comprend plus grand-chose. Et donc, ce qu'on essaye avec le Hub, c'est d'incarner ça. Parce que derrière ce partenariat, il y a des vraies personnes, il y a des vrais gens, et notamment il y a des vrais jeunes qui ont envie de travailler ensemble, qui ont envie de regarder un peu plus loin que ceux qui essayent de les opposer, notamment dans le climat politique ambiant auquel on assiste souvent. Et donc là, c'est juste montrer qu'en fait, on peut travailler ensemble, on a les mêmes aspirations et on peut avoir vraiment un poids sur ce qui se fait.
Alors, 42 jeunes que vous avez sélectionnés comment ?
Qui ont été sélectionnés, donc je le disais, par un appel ouvert à candidature, sur la base non pas de leur appartenance à des organisations de jeunes, nécessairement, mais sur la base de leur expertise dans l'un des 6 domaines. Donc vraiment, il y avait un accent dans le processus de sélection mis sur qu'est-ce que vous avez déjà accompli dans ce domaine ? Que ce soit en tant que chercheur, que ce soit en tant que créateur d'entreprise, que ce soit en tant que membre d'une association, membre d'une institution. Donc il y a vraiment des profils différents pour chacun des 6 sujets. Et c'est ça la richesse, c'est qu'on regarde à un même sujet de différents angles.
Il y a un intérêt extrêmement vif cette année pour cette initiative, encore plus fort que l'année dernière. Vous me disiez que vous-même, vous étiez extrêmement surpris.
Agréablement surpris, en effet, parce que voilà, c'est une initiative qui n'a pas fait l'objet d'une instruction du plus haut niveau pour exister. Au contraire, elle est partie de la base. C'est en fait des jeunes.
Il a fallu se battre un peu.
Ça a été effectivement, ça a demandé un petit peu de voilà.
Les de force, jeunes qui de sont conviction. Autour de vous, auxquels je vais donner la parole dans un instant, sourient. Mais je pense qu'il a fallu se battre.
Voilà. Mais vous savez, c'est comme tout ce qui est nouveau. Il faut d'abord un peu prouver. Ensuite, les gens commencent à venir derrière l'approche. Mais voilà, c'est une initiative qui a été poussée, imaginée et poussée par des jeunes qui eux-mêmes travaillaient pour l'Union européenne, dans mon cas, mais aussi pour l'Union africaine. Mon collègue qui a dû partir malheureusement, mais donc voilà, et qui ont essayé de convaincre leur hiérarchie et le Forum de Paris nous a beaucoup aidés parce que l'année dernière, en gagnant un prix, et pour l'Union européenne, je ne sais pas pour l'Union européenne, mais c'était le seul projet Union européenne qui avait gagné un prix, donc du coup, soudain. Les gens se sont tournés vers ce projet. On dit, tiens, il y a peut-être quand même quelque chose.
Alors cette année, au-delà du recrutement des jeunes auxquels on va donner la parole, parce que là, ils ont envie de parler, hein,
bien
vous
sûr.
Écoutez, mais il n'y a pas que vous qui allez participer à cette émission. Il y a donc une concrétisation à partir de cette année.
Effectivement, c'est-à-dire qu'on est dans une phase assez critique puisqu'on vient de sélectionner les organisations de la société civile qui vont mettre en œuvre les projets pilotes. Donc chaque cluster thématique, chaque groupe thématique va avoir un projet piloté sur le terrain, à la fois en Europe et en Afrique. Encore une fois, on insiste beaucoup, on est dans une approche qui n'est pas l'Europe pour l'Afrique, tout ça est un peu dépassé. C'est vraiment l'idée de travailler ensemble sur des thématiques communes. Et donc là, les projets vont démarrer. Et en fait, on vient de finir avec tous les jeunes, 4 jours extrêmement intéressants, de travail conjoint avec ces organisations de la société civile.
Et donc dans cette émission, on s'intéresse évidemment au cluster environnement. Jean Constantinesco, on va vous libérer parce que je crois que évidemment vous êtes extrêmement sollicité.
Un grand merci. Oui, n'exagérons rien, mais merci beaucoup.
En tout cas, vous êtes obligé de nous laisser, d'aller voir d'autres gens. Dans quelques instants, nous allons donner la parole au cluster environnement. Et oui, évidemment, vous êtes dans C'est pas du vent, mais tout d'abord une petite pause musicale.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI, nous sommes au Forum de Paris pour la paix à la grande halle de la Villette dans l'est de Paris. Nous parlons du EU Youth Cooperation Hub, en français le pôle de coopération jeunesse de l'Union africaine et de l'Union européenne, qui est un lieu où les jeunes africains et européens pensent et agissent ensemble, notamment sur les questions d'environnement. Et des jeunes, nous en avons avec nous, ceux concernés évidemment par cette thématique. Daniel Houlet de Côte d'Ivoire, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du pôle business. Oui. Et pour le pôle environnement, il y a Anaïs Amazi d'Algérie, bonjour.
Bonjour.
Jonas Fall, vous êtes franco-italien, bonjour.
Bonjour.
Et Claude Sodoquin du Togo, bonjour.
Bonjour.
Alors avant que chacun détaille un petit peu ses projets personnels, j'aimerais savoir les uns et les autres, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de participer à cette aventure de Hob, Daniel, Oulaï?
D'accord. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est clair, les défis sont les mêmes en Europe qu'en Afrique. Il est important pour nous de construire des ponts entre nos initiatives, entre jeunes Africains, jeunes Européens. Et nous avons décidé de participer à ce Hub parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine ne doit pas être considérée comme un danger, mais comme une opportunité. Et c'est cette opportunité que nous avons voulu porter plus haut en contribuant à ce projet pour partager ce qu'on a comme expertise, expérience sur le continent africain, de sorte qu'on puisse arriver à construire un écosystème où on règle ensemble nos défis, on partage nos expériences et on essaie de développer ensemble pour répondre aux difficultés qui sont sur les deux continents.
Et alors le pôle business de ce hub est quand même un peu orienté puisqu'il y a une dimension environnement aussi finalement.
Justement, parce qu'aujourd'hui, les projets sur lesquels nous travaillons, nous veillons à ce que nous puissions avoir de plus en plus une conscience environnementale dans le déploiement du projet.
Donc c'est surtout quoi? Agriculture, énergie.
Agriculture et énergie.
Voilà. Mmh. À vos côtés, Jonas Fall, donc vous êtes franco-italien, vous êtes européen, quoi. Hein,
voilà.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de rejoindre cette aventure?
Alors, vous dites que je suis européen, effectivement, euro-africain, on va dire. Je viens de mère italo-érythréenne et de père franco-sénégalais.
Ah oui,
donc il y avait une dimension euro-africaine, on va dire, qui du coup faisait un peu de la participation au hub une évidence. Mais pour mon engagement ensuite dans le pôle environnement, je suis très engagé, disons, dans la crise climatique. Et je pense que c'est une thématique qui couvre à peu près tous les autres problèmes, disons, qu'on peut avoir à la fois en Europe et en Afrique, un problème économique, problème sociaux. C'est quelque chose de transversal. Et un forum de coopération pour pousser de l'innovation portée par des jeunes, c'était quelque chose qui faisait beaucoup de sens à mes yeux.
Anaïs Amazit, d'Algérie donc.
Voilà, je suis d'origine algérienne et je suis née, j'ai grandi en France, donc j'ai beaucoup d'attaches
également.
Vous êtes
franco-algérienne alors?
Bah, mes deux parents sont algériens, donc ça dépend, ça peut porter à confusion. pour ma part, de par mes expériences professionnelles, j'ai pu être témoin de certains modes de coopération que je n'approuvais pas forcément, c'est-à-dire des modes de coopération totalement nord-sud, parfois imposés. Et je trouve que ce mode de collaboration entre l'Afrique et l'Europe qui va dans les deux sens, c'est d'abord ce qui m'a attirée dans ce Youth Hub. Et ensuite, bien sûr, la partie environnement et changement climatique qui est la thématique numéro un.
Pour vous aussi, c'est prioritaire.
Oui, bien sûr. Mm.
Et à vos côtés, donc, Claude Sodoquin. Pour vous, Claude, c'est quoi ce hub?
D'abord, je pense qu'il faudrait préciser que je suis de la diaspora togolaise en France. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance de voir les réalités un peu en France. Et j'ai grandi au Togo jusqu'à j'ai eu mon baccalauréat. Et j'ai créé une association et qui déjà avait cet aspect nord-sud qui permettait aux jeunes de l'Europe de venir en Afrique pour pouvoir échanger aussi leur expérience, pour permettre aux jeunes africains qui n'ont pas nécessairement cette chance de pouvoir avoir facilement un visa pour participer à des conférences à l'international, pour pouvoir partager donc cette expérience au forum que nous organisons souvent en Afrique.
Donc vous étiez coup, déjà dans l'échange.
Exactement. Mmh. Du coup, quand j'ai vu l'appel, c'est comme si une vision qui s'alignait à ma vision déjà précédente et aussi l'aspiration que j'ai à travailler plus tard comme expert en énergie dans une organisation internationale.
Alors justement, nous allons en venir à ce que vous faites chacun dans vos domaines. Daniel, vous, en Côte d'Ivoire, vous avez créé une start-up qui s'appelle la Grainothèque.
Oui.
En fait, l'idée, c'est de valoriser les semences paysannes. Et ça, c'est un enjeu dont on parle souvent dans cette émission. C'est un enjeu essentiel pour, j'ai envie de dire, même la survie de l'agriculture africaine.
Oui, justement, la semence paysanne, c'est l'avenir de l'agriculture sur le continent africain. Et la Grainothèque, c'est une entreprise sociale ivoirienne qui travaille essentiellement à valoriser cette biodiversité génétique des semences paysannes africaines. Mais aussi, on travaille à la documentation, à la vulgarisation des bonnes pratiques endogènes liées à l'agriculture paysanne.
Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une offensive des multinationales qui essayent d'imposer leur kit hein, avec des semences et tout ce qui va avec, les engrais, les pesticides, les herbicides. Et ça coûte très cher aux paysans, ça crée de l'endettement, ça crée du mal-être. On le voit en Europe, on l'a vu en Inde, on le voit dans plein de pays du monde, en Amérique du Sud. L'Afrique, pour l'instant, est assez préservée. Et vous souhaiteriez qu'elle le reste?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous, fils de paysans, avenir l'Afrique de demain, de proposer des solutions alternatives qui prennent en compte nos réalités, qui prennent en compte nos diversités. Et c'est ce que nous sommes en train de faire parce que l'avenir de ce continent, c'est effectivement sa capacité de pouvoir préserver ses pratiques endogènes et conserver la diversité génétique des semences paysannes sur le continent africain. C'est l'avenir et nous y travaillons et nous espérons qu'avec le temps, ce soit compris de tous qu'il faut vraiment préserver cette diversité génétique de semences paysannes.
Ça intéresse les gens en Côte d'Ivoire?
Je pense que de plus en plus, on commence à comprendre avec les réalités climatiques, avec le poids des semences améliorées, de l'utilisation excessive des intrants dans les champs. De plus en plus, on commence à faire un retour vers ces pratiques endogènes.
Donc, vous mettez cette expérience au profit du hub. On verra comment tout à l'heure. Jonas Fall, vous êtes plutôt dans tout ce qui est reforestation avec Pure Projet. Donc, Pure Projet qui a été cofondé, entre autres, par Tristan Lecomte, qu'on reçoit de temps en temps dans cette émission. Alors, expliquez-nous en quelques mots, rappelez-nous ce qu'est Pure Projet et comment vous participez.
Alors, Pure Projet, c'est un social business, c'est-à-dire c'est une entreprise dont l'objectif est d'avoir un impact social et environnemental, qui réinvestit ses profits dans son activité et qui ne distribue pas de dividendes à ses actionnaires. Et l'objectif de Pure Projet, c'est un peu de réconcilier les entreprises avec l'environnement. Donc on travaille avec des grands groupes français, européens et au financement de projets de reforestation, donc en Afrique, en Amérique latine, en Asie, de projets d'agroforesterie, c'est-à-dire le fait de planter des arbres dans des exploitations agricoles, donc d'utiliser les bénéfices des arbres dans des plantations agricoles pour améliorer les rendements, pour fertiliser les sols, pour sécuriser la ressource en eau et myriades de bénéfices. Et d'autres projets de régénération des écosystèmes. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans une transition, adaptée au changement climatique. Donc on pense qu'il faut, une réponse autant politique qu'une réponse d'accompagnement avec ces entreprises-là qui sont au cœur du défi posé par la crise climatique.
Alors ça passe par quoi comme projet concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple en Afrique?
Concrètement, on a par exemple un projet au Sénégal où on travaille donc à de la plantation d'arbres autour de plantations maraîchères entre Dakar et Saint-Louis, une zone qui est fortement frappée par la désertification, par la progression de l'aridité des sols. Donc on plante des arbres qui permettent de freiner la progression des dunes, la progression du sable vers les bandes maraîchères, et des espèces également, donc des légumineuses par exemple, enfin des espèces qui ont des bénéfices particuliers sur les sols, qui permettent de refertiliser des sols qui ont perdu en fertilité. Et on travaille exclusivement avec des petits agriculteurs, nos partenaires c'est des coopératives, ce sont elles qui portent le projet, et ce sont elles qui assurent sa viabilité à long terme. Nous on est là pour fournir des arbres et une assistance technique aux plantations.
Anaïs, vous êtes la coordinatrice pour l'Afrique, c'est quand même vaste, hein, tous ces pays, pour le Barefoot College. Alors le Barefoot College, c'est né en Inde, c'est un laboratoire d'initiatives, il y en a beaucoup qui sont passionnantes, et notamment les Solar Mamas, qui consistent à former les femmes aux énergies renouvelables, aux panneaux solaires, pour que ce soit elles qui les installent et les entretiennent dans les villages. Vous coordonnez à votre âge, vous êtes jeune hein, quand même, au niveau africain, toutes ces initiatives, ça représente beaucoup, beaucoup de projets.
On a 5 projets majeurs en Afrique qui visent à répliquer l'approche que nous avons testée et approuvée en Inde depuis plusieurs dizaines d'années, l'initiative Solar Mama, et de créer et de développer des centres de formation au niveau régional en Afrique. Donc des centres de formation à Zanzibar en Tanzanie, à Madagascar, mais également en Afrique de l'Ouest, au Libéria, au Sénégal et au Burkina Faso. Ce sont les 5 projets phares. Et après, bien sûr, nous travaillons toujours avec des partenaires locaux dans différents pays d'Afrique pour la formation des femmes qui sont envoyées soit en Inde, soit dans nos centres régionaux.
Oui, parce qu'expliquez-nous comment ça marche.
Eh bien, nous travaillons donc avec des partenaires locaux dans chaque pays qui ont l'habitude de travailler avec des communautés rurales et à qui ces communautés rurales leur ont rapporté un besoin d'électrification et d'autonomisation des femmes. Donc nous sélectionnons à travers une approche participative dans les villages certaines femmes qui vont ensuite être formées en Inde ou dans les centres régionaux.
Pour certaines, c'est la première fois qu'elles quittent leur village.
Tout à fait. Elles ne sont pas forcément allées à l'école. Elles sont peut-être jamais sorties de leur village. Encore moins qu'elles ont pris l'avion. Donc,
c'est une aventure.
C'est une aventure vraiment totale. Et se retrouver en plus dans un autre pays pendant 5-6 mois avec des femmes de 15-20 pays dans le monde sans parler la même langue, c'est vraiment une aventure transformatrice.
Voilà, et elles sont formées donc à l'installation et la maintenance des panneaux solaires. Et ensuite, quand elles reviennent dans leur village, j'imagine, sont les reines du monde parce qu'elles maîtrisent l'énergie. C'est une puissance incroyable.
C'est ça, oui. Ça montre vraiment que les femmes peuvent être agentes de changement, peuvent proposer aussi des solutions pour leur communauté, même si elles n'ont jamais été à l'école et même si auparavant elles n'avaient aucun rôle dans cette dite communauté.
À vos côtés, Claude Sodoquin. Alors Claude, vous au Togo, vous avez créé Ecolotrip. Ça consiste en quoi Ecolotrip ?
Ecolotrip, qui veut dire voyage écologique en français, a pour but de sensibiliser davantage de jeunes francophones au début pour prendre conscience de la question climatique et de la préservation de l'environnement.
Et ça passe par quoi concrètement ?
Par exemple, nous organisons des concours de projets parce que nous pensons que il faut peut-être adopter une nouvelle approche pour peut-être impliquer beaucoup de jeunes. Il faudrait lancer des concours de projets d'entrepreneuriat vert. Donc nous organisons des forums qu'on appelle communément Wikeco, où il y a des jeunes de l'Afrique francophone, et non seulement de l'Afrique francophone, mais de la Belgique par exemple, du Canada, qui viennent pendant 3 jours où nous faisons des ateliers, des visites de terrain, des fermes agricoles et nous organisons un concours de projets et nous essayons de financer et d'apporter des soutiens techniques à ces jeunes.
Voilà, on vous l'avait dit, hein, des jeunes dynamiques. On a donc avec nous l'agriculture, la reforestation, l'énergie, la sensibilisation. Des jeunes qui font tous partie de ce hub de l'innovation ici au Forum de la paix de Paris. Nous faisons une petite pause musicale et nous voyons ensuite comment les uns et les autres ont mis toute cette expérience au profit du hub. Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes au Forum de Paris pour la paix à la grande halle de la Villette dans l'est de Paris. Nous parlons du AUEU Youth Cooperation Hub, en français le pôle de coopération jeunesse de l'Union africaine et de l'Union européenne, qui est un lieu où les jeunes africains et européens pensent et agissent ensemble, notamment sur les questions d'environnement. Vous avez entendu ces jeunes, chacun porte des projets différents, mais c'est aussi une nouvelle façon, ce hub, de faire de la coopération internationale. Jonas Fall, vous me disiez en préparant cette émission que pour vous, c'était ça qui était important.
Exactement. Ce qui est particulièrement innovant dans cette démarche, c'est d'associer des jeunes donc européens et africains 42 à un processus de sélection qui est en général géré à un niveau assez, disons, bureaucratique au niveau de l'Union européenne et de l'Union africaine. Et là, associer des jeunes avec des expériences très différentes à un processus avant le processus de sélection, même au design de projet et ensuite au processus de sélection et ensuite, on le verra dans le futur, à l'accompagnement de ces projets, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant et qui est particulièrement innovant dans la démarche même.
Et c'est vrai que cette dimension de faire de la politique autrement, c'est important aussi pour vous, Daniel Oulay.
Oui, justement, parce que j'ai l'habitude de dire qu'une solution qui est prise pour vous, sans vous, n'est pas forcément pour vous faire du bien. Et c'est pour la première fois qu'il y a un projet d'aussi global qui est conçu par des jeunes, qui sera piloté par des jeunes, pour des jeunes. C'est déjà quelque chose de très innovant. Et ça m'a accroché tout de suite. Et de plus en plus, la jeunesse a envie de faire entendre sa voix. Et on nous donnait l'opportunité de dire ce qu'on voudrait, nous, sur notre continent. Et comment est-ce qu'on souhaiterait que ça se passe. C'était vraiment une très grande innovation.
Et Claude, vous me disiez aussi, pour vous, c'est l'occasion d'élargir quand même son carnet d'adresses, de rencontrer plein de gens. C'est vrai que c'est un beau tremplin aussi quand on démarre dans la vie.
Oui, naturellement, il faut noter que je suis le plus jeune du Hub. Et donc, je suis toujours étudiant d'ailleurs, je fais une formation en énergie solaire à Madrid. Et c'est pour moi une occasion, une opportunité de pouvoir remplir mon carnet d'adresses et pour plus tard ouvrir d'autres portes pour ma carrière professionnelle.
Donc ça, c'est aussi une dimension intéressante. Mais donc, vous êtes, chacun, on l'a entendu dans vos projets, mais le principe du hub, c'est que vous mettez votre expérience au service de ce hub pour faire émerger d'autres projets. Alors, Jonas, il y a un projet qui a été désigné dans le pôle environnement. De quel projet s'agit-il et qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, il s'agit d'un projet donc, qui est situé au Niger et au Burkina Faso, alors qui répond à un problème criant dans la zone sahélienne, qui est la désertification, qui donc prend le pas sur beaucoup d'exploitations agricoles. Donc là, c'est un projet qui vise à reverdir cette bande sahélienne, donc au Niger, au Burkina Faso, je le disais, mais à travers des mécanismes innovants. Donc le premier mécanisme, c'est la notion de paiement pour services écosystémiques. On travaille avec 1200 agriculteurs, petits agriculteurs dans cette région. Enfin, on va travailler avec 1200 petits agriculteurs. Et l'idée, c'est qu'ils plantent des arbres et qu'ils fassent, disons, ce qu'on appelle de l'agriculture régénératrice, enfin, des pratiques agricoles durables, et que ces pratiques durables ont une valeur pour l'environnement qui doit être monétisée. Donc l'idée, c'est de rémunérer ces paysans pour la plantation d'arbres et pour la mise en œuvre de ces pratiques.
C'est pourquoi ? Pour les stimuler ?
Exactement, pour qu'il y ait un intérêt à planter des arbres, parce qu'il y en a un. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas valorisé aujourd'hui, hein, qu'on voit ça comme une activité gratuite, alors que pas du tout. Un arbre, ça stocke du carbone, ça fertilise les sols, ça retient l'eau. C'est un service qu'on voit comme gratuit, alors que non, il a une valeur économique.
Mais du coup, qui paye ?
Et du coup, là, c'est le projet qui va financer ces agriculteurs. Et l'idée, c'est ensuite d'envisager, alors dans un plus long terme, éventuellement de la certification carbone pour disons, pérenniser le financement du projet à long terme.
Anaïs Amazid, vous aviez voté aussi pour ce projet ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il a plusieurs dimensions. Il implique des jeunes, des femmes, des composants innovants qu'on ne voit pas souvent dans la plupart des projets. Il répond à un problème criant, comme le disait Jonas, dans une zone qui en a vraiment besoin aujourd'hui, la bande du Sahel. Et ça s'inscrit également dans une initiative plus vaste qui est la Grande Muraille Verte, qui est un projet qui a été lancé par l'Union africaine il y a quelques années et qui contient déjà plusieurs initiatives un petit peu similaires à celle-ci de reverdir le Sahel. Et donc on s'inscrit aussi dans cette dynamique-là. Et on a, à travers ce projet, on entend également aider à la cartographie et à la visibilité de toutes ces initiatives positives qui œuvrent pour le reverdissement du Sahel.
Claude, vous étiez pour ce projet-là parce que vous auriez pu en soutenir un autre, vous pouvez le dire. Hein.
Non, pas du tout. D'autant plus que c'est un projet qui a aussi un aspect sensibilisation, parce qu'un volet qui consiste à créer des campagnes de communication innovatrices pour pouvoir atteindre beaucoup plus de jeunes. Donc on a environ 30 000 bénéficiaires qui seront atteints de notre campagne de sensibilisation qu'on aura à mener en ce sens.
Daniel Olaï, dans le pôle business, qu'est-ce qui a été sélectionné comme projet ?
Il y a deux projets qui ont été sélectionnés dans le cluster business. Un projet en Afrique de l'Ouest qui va toucher le Sénégal et le Burkina Faso et un autre projet au Maghreb. Et en gros, pour ces deux projets, l'innovation, c'est que c'est un projet qui va permettre à des startups sur le continent africain de passer à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut noter que le plus gros besoin des startups sur le continent, c'est de pouvoir lever des fonds. Et ce projet va permettre d'accélérer ces jeunes porteurs de projets sur le continent pour créer des modèles de succès sur le continent qui pourront inspirer d'autres jeunes. Et ça, c'est très important. Le deuxième volet innovant, c'est la mobilité nord-sud qui est dans le projet pour permettre à des jeunes sur le continent africain de venir, de bénéficier de voyages d'immersion en Europe où ils pourront rencontrer d'autres chefs d'entreprise pour faire des transferts de technologies, des transferts de compétences et vice-versa pour des jeunes européens qui viendront aussi sur le continent africain pour partager leur expérience et de pouvoir faire des transferts de technologies entre les deux territoires. Donc le projet va connecter l'Europe à l'Afrique d'une façon ou d'une autre et faciliter la mobilité des jeunes entrepreneurs pour leur permettre donc de renforcer leurs compétences et de pouvoir passer à l'échelle.
Et dans quel domaine sont ces deux startups ?
C'est essentiellement, en gros, c'est 115 startups sur le continent qui vont bénéficier donc de ce programme. Donc 100 start-up en Afrique de l'Ouest et 15 start-up donc sur le Maghreb. Et c'est essentiellement des projets dans le domaine agricole et dans l'énergie.
Alors si on vous écoute, moi je suis jeune en Afrique ou en Europe, je me dis mais c'est génial, moi aussi je voudrais faire partie de ce hub, j'ai envie de partager, d'échanger de l'autre côté de la Méditerranée. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ont tendance à dire oui, enfin bon, notamment en Afrique, les jeunes en Afrique, l'environnement c'est pas leur priorité, c'est pas un sujet qui les intéresse trop parce qu'ils ont d'autres choses à faire, ils ont d'autres priorités, notamment bah, évidemment hein, la fameuse fin du mois qui est difficile à concilier avec la notion de fin du monde. Comment est-ce que vous avez envie de répondre à ça, Jonas ?
Moi, je pense qu'il y a avant tout un gros problème de visibilité. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes en Afrique aujourd'hui qui s'engagent dans des initiatives innovantes, dans l'agriculture, dans la transition écologique. Ces initiatives-là, on n'en entend pas toujours parler. Et moi, je veux dire à ces jeunes qu'il faut qu'ils continuent parce que c'est le nerf de la guerre. Enfin, il y a effectivement... Des changements institutionnels à prévoir dans la crise climatique, il y a une réponse politique, mais finalement c'est les modes de vie, les modes de production et au niveau local en Afrique, donc dans le cas africain, qui font bouger les choses. Donc moi j'ai envie de leur dire qu'il faut continuer, même si effectivement c'est pas toujours, tout n'est pas toujours fait, disons, pour faciliter la tâche.
Anaïs ?
Oui, je trouve que les différentes initiatives au niveau local sont pas forcément visibles, comme le disait Yonas, et on le voit avec ce que disait Daniel tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des modes de production alternatifs, il y a des façons de faire qui sont promues par des jeunes et ces jeunes-là doivent être soutenus à travers différents projets, à travers différents acteurs. Et il faut pas les lâcher, il faut continuer de les soutenir.
Claude, vous êtes d'accord ?
Oui, plus ou moins. Je partage l'avis de visibilité. Et en plus de cela, je pense qu'on doit aussi aborder le sujet avec d'autres approches, notamment l'entrepreneuriat vert, qui va permettre non seulement de tacler les questions climatiques, mais aussi de générer de l'emploi pour ces jeunes sur le continent africain.
Oui, parce que vous me disiez que vous étiez un peu surpris de voir qu'il y avait moins de jeunes qui se mobilisaient dans les manifestations pour le climat sur le continent africain, même s'il y en a, hein, on en a reçu dans cette émission, mais c'est vrai que c'est moins visible quand on voit les Friday for Future. Là, il y a moins de monde à Dakar, à Bamako ou à Niamey qu'à Paris, Londres ou dans d'autres capitales européennes.
Même le monde qui a suivi, c'est parce qu'il y a une initiative qui est née en Europe. Ça n'a pas été une initiative d'un jeune Africain et c'est normal.
Vous croyez que c'est parce que c'est Greta Thunberg qui était à l'initiative de ça. Donc il faut trouver un Greta Thunberg africain en fait.
Exactement.
Alors on le recherche, hein, n'hésitez pas, vous appelez cestpasduvent@rfi.fr. C'est peut-être l'un de vous quatre d'ailleurs. Mais il faut commencer par faire grève tous les vendredis ou il faut trouver un autre mode d'action. Vous, Anaïs, vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de mobilisation en ce moment sur le continent africain. Et chaque vendredi ou chaque dimanche ou chaque jour de la semaine, il y a des populations qui se mobilisent. Je prends l'exemple de l'Algérie. Tous les vendredis, la population est dans la rue. Et c'est pas seulement au niveau institutionnel, c'est aussi pour réclamer plus de justice sur l'environnement. Il y a eu la loi sur les hydrocarbures qui a commencé à être négociée et les gens sont sortis dans la rue pour ça. Donc la question climatique est aussi prise en compte dans les mobilisations populaires en Afrique, il me semble.
Oui, puis on voit qu'il y a quand même un soulèvement global dans de nombreux pays, pas seulement, mais quand même beaucoup de la part de la jeunesse contre les inégalités tout court et inégalités environnementales et une inquiétude par rapport au futur. On pense, vous parliez de l'Algérie, on pense au Chili, on pense à Hong Kong, on pense au Liban, enfin tout dans tous ces pays-là, dans toutes les capitales, les jeunes sont très mobilisés et c'est peut-être aussi cette peur de l'avenir qui fait qu'avec les enjeux écologiques, les gens sont dans la rue. Daniel, comment est-ce que vous voyez, vous, ces soulèvements populaires ?
Moi, je le vois sur deux angles. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont envie de se faire entendre. Les jeunes ont envie de porter leur voix, ils ont envie de contribuer. Ils veulent qu'on leur crée le cadre pour faire éclore leur génie. C'est d'abord le premier constat que je fais. Ensuite, c'est aussi parce que la jeunesse a en plus conscience des enjeux climatiques, en plus conscience de l'avenir, de ce que devient le monde. Et ils ne veulent pas que les choses se fassent sans eux.
Alors vous dites « ils », vous pourriez dire « nous ».
Justement, non.
Nous ne voulons pas, Jonas. Vous partagez aussi ce constat ?
Absolument, et puis je pense que de toute façon, l'environnement, c'est un sujet qui touche à tous les domaines. On ne peut pas parler d'environnement si on ne parle pas de modèle économique, on ne peut pas parler d'environnement si on ne parle pas d'éducation. Il n'y a pas de réponse à la crise climatique, disons, sans réduction des inégalités. Donc tout ça est très, très lié.
Claude ?
Moi, je ne sais pas si je peux sortir un peu du cadre, mais je partirais sur...
Allez-y, sortez du cadre.
Voilà, l'inégalité, par exemple, qu'il y a, la facilité qu'un jeune Européen a, par exemple, d'aller en Afrique. Et le sens inverse n'est pas évident, en fait.
Ça commence
donc,
par là.
Oui, donc je pense que le hub est une initiative aussi. On a dans notre hub un cluster qui s'appelle Gouvernance. Voilà, c'est un canal qui peut aussi permettre de réduire ce genre d'inégalités, pourquoi pas.
Oui, c'est important de pouvoir circuler dans les deux sens, vous avez bien raison de le rappeler. Pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, j'aimerais vous demander à chacun d'entre vous, finalement, quelle est la suite ? Parce que là, le Forum de Paris referme ses portes. Vous êtes partis pour plusieurs années d'engagement, hein, c'est ça l'idée. On fera le point dans un an, peut-être, au prochain Forum de Paris pour la paix. Mais en attendant, Daniel, qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui vient pour vous ?
D'abord, en janvier, en début d'année, on lance le projet. On va identifier...
Donc les projets de start-up dont vous parliez
justement,
tout à l'heure.
Donc l'idée, ça sera d'identifier les 115 start-up sur le continent qui vont bénéficier du programme.
Ah, donc vous lancez un appel là ?
Justement, un appel à projet. Et les incubateurs sur le continent qui vont bénéficier du programme ont déjà été identifiés. Ensuite, ça sera d'accompagner ces start-up tout au long des 3 années. Et à la fin, on va faire un programme de capitalisation et voir l'impact de ce projet sur le continent.
D'accord, très bien. Jonas ?
Alors nous, on rentre dans le vif du sujet. Hein. Donc là, on a passé la phase de préparation. Maintenant, le projet va être déployé en début d'année prochaine. Donc on va, comme je disais, soutenir 1200 agriculteurs au Burkina et au Niger. Donc dans de la plantation d'arbres, mais on va aussi déployer des technologies innovantes, donc la blockchain, de l'imagerie satellite. On explore, disons, des pistes pour innover sur le monitoring du projet. Et il y a également une campagne de sensibilisation donc, à lancer pour toute la région.
Donc vous allez voir arriver cela, chers auditeurs, en début d'année.
Exactement.
Et quand vous entendrez parler du EU Youth Hub, vous ne direz pas ça sonne quoi. Non, vous saurez que vous en avez entendu parler sur RFI. Anaïs, entre maintenant et l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous ?
Tout à fait. Bah, on est dans le même cluster environnement. Donc, il va se passer, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, mais on va aussi essayer d'engager tous ces jeunes à planter des arbres. Et donc, j'aimerais faire un appel à des jeunes qui sont au Burkina Faso et au Niger, s'ils veulent participer à ce projet, en savoir plus.
Quelle adresse ?
On s'adresse ? Ils tapent sur Internet EU Youth Cooperation Hub.
Bon, de toute façon, on mettra toutes les coordonnées sur la page Internet de l'émission. Claude, vous aussi, vous allez suivre tout ça assidûment durant l'année qui vient.
Oui, oui, naturellement, je partage. Comme on est dans le même cluster, donc c'est l'année prochaine, on espère voir beaucoup de jeunes burkinabés nigériens très, très actifs dans notre programme. Et au-delà de ça, nous sommes en train de réfléchir à comment engager... faire bénéficier ce programme à d'autres jeunes dans d'autres pays, je ne sais pas, peut-être ce sera un stage, quelque chose avec les organisations de la société civile. Donc on verra ça l'année prochaine.
En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont se connecter sur la page de C'est pas du vent pour en savoir plus suite à la diffusion de cette émission. Donc on mettra toutes les coordonnées, bien entendu. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Philippe Nadel, Benjamin Availlou et Richard Rifono pour l'installation de ce studio, à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, bien sûr, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr. Les portraits de la bande.